Bonjour à tous, vous êtes Entre les lignes, à l'émission littéraire d'Espace 2. Christian Tchoka, Christine Gonzalez, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Soyez les bienvenus. Quentin Mouron. Un nom à retenir, illico et pour plus tard, comme l'écrit si bien le journaliste Jean-Louis Cuffert. Quentin Mouron n'a pas 22 ans, qu'il stupéfie par son talent le monde littéraire roman. Le premier livre de ce Canado-Suisse est une magnifique surprise éditoriale, une révélation, comme le qualifie son éditeur Olivier Moratel. Le titre de ce roman à lire absolument, au point d'effusion des égouts. Une prose poétique, une phrase éclatée, un rythme et une puissance à couper le souffle, de quoi vous donner le vertige. Comme un voyage. Et ce voyage-là nous emmène de Los Angeles à Trona, en passant par Las Vegas. Nous en parlerons jusqu'à midi. Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour, merci pour votre accueil.
Bienvenue Entre les lignes, c'est votre toute première radio.
Oui, exactement, oui.
Un joli baptême.
Oui, je crois que je suis de bonne main.
Oui, ça. Je vous assure. Vous bluffez tout le monde hein, avec ce premier livre. Comment est-ce que vous vivez l'effet que vous créez chez les autres?
Je le vis très peu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à la cafette, je suis en train de plancher sur le second, alors c'est un peu plus problématique. Donc je retrouve toute la difficulté que j'avais au début, encore amplifiée par une certaine pression. Donc j'ai pas encore le temps de le regarder comme ça, de l'admirer, puis de m'étendre et de prendre le temps de savourer mon accomplissement. Alors là, je suis encore, j'ai de nouveau, voilà, je repousse le caillou encore un bout. Et j'ai pas encore eu vraiment l'occasion d'en profiter, mais je l'accueille de toute façon avec beaucoup de plaisir, bien entendu, d'une certaine fierté, pour ne pas dire d'orgueil.
Et vous avez le droit d'être orgueilleux.
Alors ça va, alors je très volontiers. Et puis aussi avec une certaine reconnaissance aussi pour mon éditeur qui a quand même poussé le truc au bout, même au niveau de l'écriture, quoi. On l'a quand même. Je pense que c'était un partenariat aussi extrêmement riche, extrêmement intéressant.
Il vous a demandé de retravailler votre texte. Vous
Il avez m'a vraiment suggéré travaillé de le retravailler, ce qui n'est pas tout à fait pareil, vu que j'avais quand même le dernier mot et que c'est moi quand même qui avais les ciseaux aux mains pour couper ou justement ne pas couper. Mais ça a été, oui, je pense que ça a été quand même quelque chose fait en partenariat. Alors on aime bien des fois essayer de... J'ai pas encore l'ego de l'artiste, n'est-ce pas, où on veut qu'un texte soit parfait, alors qu'on n'enlève pas une virgule. Alors une virgule serait sacrilège, mais donc moi j'accueille très volontiers les remarques de Moratel, les remarques de Jean-Louis Cuffert dont vous avez parlé tout à l'heure, les vôtres éventuellement. Et puis je crois que c'est comme ça aussi qu'on fait quelque chose qui tient la route, parce que cette espèce de focalisation sur l'artiste qui donne quelque chose de parfait tiré du néant, je crois que c'est un peu dépassé, je crois que c'est un peu ringard, c'est un peu dans les espèces de... Alors ça allait peut-être pour Baudelaire, ça allait peut-être pour le 19e, mais c'est vrai que maintenant je crois qu'on peut quand même se reposer la question et puis accueillir aussi toute cette tradition littéraire de la réécriture et de l'inspiration, de l'influence.
Vous n'aimez pas ce qui est ringard, hein, Quentin Mouron?
Ah non, j'aime pas tellement ce qu'est ringard, non, c'est vrai. Le ringard nous guette partout, c'est pas seulement... C'est des fois pas ce qu'on croit d'ailleurs être ringard. Il y a du ringard partout. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui... Non, c'est pas quelque chose. J'essaie de m'en tenir loin.
On va y revenir, et notamment votre manière de traiter les clichés. Quentin Mouron, vous êtes l'invité de Christian Tchoka. Bonjour Christian.
Bonjour Christine.
Au point d'effusion des égouts, un magnifique titre emprunté à Antonin Artaud. Un magnifique livre aussi. Livrez-nous vos impressions, quelques impressions de lecture, Christian.
Alors, impression immédiate, vous savez, on a entre les lignes la peur du poète mutique. Et là, je suis complètement soufflé par Quentin Mouron qui est en pointe ce micro et qui est prêt à toutes les critiques que je serais bien en peine de lui adresser, parce que ce court roman ou récit, c'est comme on veut, hein, Quentin Mouron, de 140 pages nous entraîne d'abord dans l'éclatement de la syntaxe. C'est peut-être un petit reproche de ringard que je pourrais lui dire. C'est-à-dire que la syntaxe est éclatée parce que je pense à 22 ans que votre culture est visuelle. C'est un récit cinématographique, hein, on va voir voir défiler à 24 mots secondes quasiment la route, bien sûr. Et puis, c'est avant tout, impression de lecture, vous me demandiez, Christine, c'est avant tout l'histoire d'un débarquement. Un débarquement à Los Angeles, vous quittez la Suisse, si j'ai bien lu.
Exactement. Hein,
et vous atterrissez à Los Angeles, mais attention, vous atterrissez en collapse. Collapsus pour commencer, c'est-à-dire vous êtes complètement dans les vapes. Vous avez dans l'avion évidemment fantasmé cette Amérique de l'extrême Occident. Et dès les premières lignes, dès en fait le débarquement à Los Angeles, Quentin Mouron, c'est le début de la déglingue. C'est le début de l'envers du décor ou de l'enfer du décor. Donc d'emblée de jeu, il faut déconstruire et nous désarçonner. C'était ça l'amorce de ce récit au point d'effusion des égouts.
C'était pas un truc de fabrication, donc c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je suis arrivé à Los Angeles avec tous les rêves qu'on peut faire dans l'avion, et puis ben voilà, je suis tombé. C'était très bien. J'ai peut-être un peu menti, hein, parce qu'évidemment, j'ai pas tout de suite été déçu. J'ai eu la magie a encore duré un peu. Je crois que le narrateur est un peu plus lucide que je le suis. Moi, j'ai été encore un peu dans les brumes quand même une ou deux semaines. Je me suis quand même quel pays incroyable. Et puis c'est vrai que finalement, après, la magie s'est estompée. Et puis, j'ai vu aussi tout ce qu'on ne devait pas montrer à ceux qui restent comme ça en vacances pendant une ou deux semaines. Après, évidemment, après quelques mois, on est obligé de gratter un peu l'écorce. On arrive au tronc. Et puis, le tronc est peut-être passablement vermoulu. Enfin, je crois que c'est ce qu'on peut ressentir à la lecture du bouquin.
Alors vous avez en fait commencé sur un jet lag, donc vous arrivez et vous avez déjà un jet lag appuyé, et puis on reparlera du dernier chapitre, le banquet, qui n'est pas platonicien, ça je le souligne tout de suite, un banquet un peu sévère pour le retour en Suisse, mais ce qui est extrêmement, disons, révélateur et très séduisant dans cette arrivée à Los Angeles, dans ce jet lag d'emblée, c'est qu'en fait vous êtes obligé par cette espèce de coma qui vous prend ou par l'impossibilité de débarquer lucidement à Los Angeles, vous êtes obligé de réinventer vos sensations sur le monde. Et c'est en fait le départ de ce roman qui nous entraîne dans une sorte d'apprentissage de la sensation, comme si voyager c'était désapprendre les sensations précédentes.
Oui, je crois tout à fait. C'est aussi que je crois que je vais me citer. Je dis que c'est vivre à couteau tiré avec la réalité. Je crois que c'est tout à fait ça. C'est une espèce d'extrême sensibilité, d'extrême. On est de toute façon beaucoup plus à vif parce qu'on est déraciné. Il manque des repères. Il manque simplement le pote à qui taper sur l'épaule et à tirer au bistrot. Il manque toute cette espèce d'univers réconfortant qu'on a, même si vous me direz, les États-Unis, c'est pas encore, je veux dire, c'est pas un territoire occupé de je sais pas où. Je sais pas quel endroit extrêmement dangereux, extrêmement violent du monde, mais je crois qu'il y a une violence justement extrêmement sous-jacente comme ça, qui est assez particulière dans ce pays où tout semble très sucré, surtout dans les villes, quoi, dans les villes de la ville de Los Angeles, où tout semble comme ça extrêmement bonbonesque, et puis on arrive, et puis on se rend compte qu'il y a une espèce d'extrême violence qui n'est pas dite franchement. On l'entend la nuit à cause des sirènes, des alarmes, on l'entend quand on voit, moi c'est la première rencontre, c'est quand j'étais sur cette espèce d'énormes boulevards, la boulevard à touristes, vous avez tous ces promène-couillons qui passent là, à deux étages pour promener les gens, et puis tout d'un coup, je me retrouve face à des types qui étaient un peu plus jeunes que moi, qui devaient avoir, je pense, 16-17 ans, qui avaient les menottes dans le dos, à côté, sur le boulevard de Hollywood. Je me dis, tiens, mais il y a quand même une violence incroyable, surtout que les types avaient l'air extrêmement doux. Enfin, je veux dire, ils avaient pas, c'était pas du tout des types, ils étaient pas en train d'hurler, ils étaient pas en train de s'en prendre aux flics, ils étaient juste écrasés par terre avec les menottes. Enfin, c'était extrêmement, je trouvais extrêmement violent comme contraste, quoi. Surtout, alors, ça se serait passé dans le désert à Trona, où je parle après, ça se serait passé, je sais pas où, des endroits que j'ai pu voir où on sent qu'il y avait vraiment un problème vers Bakersfield, vers Victorville. Mais là, c'est vrai que sur le boulevard de Hollywood, c'est quelque chose de tout à fait saisissant. Et puis, je crois que ça a contribué à cette espèce de fleurs de peau qu'on a pu retrouver, qu'on retrouve dans le roman et puis qu'on retrouve aussi chez moi d'une manière générale.
Oui, est-ce que c'est, Quentin Mouron, l'impression qu'on vous a passé le mauvais film en débarquant à Los Angeles?
Ouais, je crois qu'on s'est un peu trompé, on s'est un peu gouré de films, en effet, là, c'est vrai qu'on est plutôt dans les... Là, on était plutôt dans des, oui, dans une mauvaise, soit une mauvaise comédie, ou alors quelque chose de, oui, donc quelque chose de, d'assez violent, un film assez trash. Oui, bon, alors j'en ai pas souffert directement de cette violence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu la retranscrire. Je pense que je suis pas certain qu'on puisse vraiment écrire comme ça dans la violence. Il faut quand même une espèce de, un pas en arrière. Et c'est ce que j'ai fait en tant qu'observateur, mais puisqu'en même temps, c'est pas non plus une chronique, aussi en tant que, comment dirait-on, soit narrateur appliqué, ou en tant que j'ai quand même participé, quoi, mais je crois que ça se ressent.
Le narrateur impliqué que vous êtes évoque son séjour chez une cousine à Westlake, une banlieue assez BCBG de Los Angeles. Donc cette cousine, elle s'appelle Clara. Elle est, comment dire, romanesque.
Oui, enfin...
Hautement romanesque.
Pas hautement romanesque, d'ailleurs, j'ai toujours peur qu'elle écoute et qu'elle me fasse un procès, mais oui, j'ai un peu changé le nom, j'ai changé deux, trois choses, oui, j'ai un peu modifié sa névrose, et puis j'ai tiré les fils, mais je préférerais quand même qu'elle ne soit pas à l'écoute.
Qu'elle soit pas à l'écoute. Alors, de toute façon, il y a le décalage horaire. C'est vrai qu'elle est très loin. Revenons quand même sur cette cousine. Parce qu'à la fois, vous lui faites camper le rôle de l'initiatrice dans ce monde nouveau qui vous décoiffe, Quentin Mouron. Et à la fois, d'emblée, vous êtes obligé de vous en distancer comme une espèce de mère ou un substitut maternel qui vous absorberait et qui vous fondrait comme un bonbon qui fond dans la bouche. Donc, il y a bien quelque chose du rejet et de l'attirance. Mais c'est quand même un guide révélateur de cette banlieue BCBG dont d'emblée vous détruisez le décor.
Oui, je crois qu'elle me balise la route dans ce livre. Elle me balise, elle me montre où je dois pas aller, justement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, je pars dans le désert. Oui, je crois que c'était extrêmement intéressant parce qu'elle met comme ça en lumière tout ce que je n'aurais pas envie de voir, tout ce que je n'ai pas envie de vivre, où j'étais attiré malgré moi. Et puis en effet, il y a aussi une certaine tendresse, je crois que c'est ce que relève Pierre-Yves Ladore dans sa préface. Il y a, je crois, une tendresse pour cette cousine qui est une pauvre bonne femme, finalement, qui est quand même qui m'inspire plus de pitié que de haine, même si voilà, elle trempe comme ça dans ce milieu caramélisé, mais elle est extrêmement triste, ouais.
Comme vous y allez, vous.
Il y a une dureté, j'ai envie de dire, chez ce narrateur, qui est assez désagréable, qui est assez pessimiste, une vision assez sombre du monde. Il voit pas tellement d'issue, quel destin pour sa génération. C'est pas forcément un narrateur qui se rend très sympathique. Et
non.
Pourtant, c'est vous qui l'êtes, j'ai l'impression.
Je suis pas complètement d'accord. C'est peut-être une lecture de genre, parce que c'est vrai que le regard sur la cousine du narrateur, alias peut-être Quentin Mouron, est très sévère.
Sur d'autres aussi.
Oui, un tantinet un peu machiste, mais ça c'est un autre problème. Et du coup, bah oui, il faut assumer, Jérémy. Et puis d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a cette distance et cette mise en forme. La narration commence par le regard de Quentin Mouron. C'est ça qui opère et qui est formidable. Alors j'ai pas tout à fait la même lecture que vous, Christine.
Vous voyez comme quoi, hein, ce livre...
Je vais répondre sur deux fronts.
Pose débat.
Choisissez votre front. Ouais.
Non, alors c'est vrai que je crois qu'il y a une le narrateur doit pas être très sympathique. D'ailleurs, je suis pas tout le temps très sympathique non plus. Je le prétends pas. Au contraire. Mais je crois que ça correspond aussi à ce qui se passe. Je crois qu'on peut pas toujours l'actualité rend pas sympathique. Ce qui se passe aux États-Unis ne rend pas sympathique. Le pays lui-même ne rend pas sympathique. Les personnages que j'ai mis en scène n'invitent pas, à l'exception de Norbert et de Laura dans une certaine mesure, n'invitent pas à la chaleur ou à la sympathie. Et puis pourtant, il y a quand même dans ce rapport avec Clara, avec la cousine folle alliée, il y a quand même une tendresse, il y a quand même j'ai dit une pitié, mais pas au sens. C'est devenu un mot un peu galvaudé.
Rédhibitoire.
Voilà,
oui.
Exactement, parce que c'est devenu. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est moi. Je prends pitié au sens noble, au sens, je dirais chrétien du terme, quoique je ne sois pas positivement bigot, mais Au sens, oui, je crois, au sens noble et ancien du terme.
Alors, d'accord, pour l'ancien, donc, vous voyez, un petit côté ringard, pourquoi pas, du côté de la pitié chrétienne, quand un mourant. Cela dit, cette cousine qui est initiatrice de bien des choses et vous refusez en partie cette initiation, alors, vous la soignez d'une certaine façon, vous n'êtes pas trop dur avec elle, contrairement au regard peut-être ou à la lecture de Christine Gonzalez. En revanche, vous vous défaussez et vous attaquez son entourage, c'est-à-dire l'ensemble de ses mémères, passez-moi le terme, enfin, pétasses, comme vous l'écrivez vous-même, j'aurais pas osé, qui... On les imagine sortant d'une permanente avec des bigoudis, bigotes, bigoudis et bigotes à longueur de journée, et c'est ça qui vous stupéfie.
Oui, oui, oui. Alors c'était des pétasses d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les dames de la Côte Ouest, bien entendu. J'ai rencontré des gens formidables, mais là, le son entourage, en effet, c'était une espèce de soupe à la névrose, comme ça, où on était en train de se tirer. Alors, il y en a une qui voyait des alcooliques, l'autre voyait des obsédés, l'autre voyait des drogués, l'autre voyait des bon, il y a toutes sortes. La liste était très ouverte.
Ça me semble très caricatural, non, tout ça, Quentin Mouron?
Ah oui, je me suis fait la même remarque que vous. Je l'ai pas cherché, je vous assure. Mais on m'a, non, je crois que j'ai encore été en deçà de la réalité. Là, si je cette fois, des fois j'ai exagéré. Là, je crois que j'ai aplani.
Levez-moi un doute, est-ce que vous avez donc séjourné au Québec, hein, vous êtes d'origine...
Pendant 10 ans, oui.
Pendant 10 ans. Alors, vous étiez à Montréal ou du côté de Montréal?
J'étais à 2h30 de Montréal, au nord-est, je ne suis pas très fort en géographie.
Dans les Laurentides, dans ces
La Naudière, qui est juste à côté des Laurentides, oui, qui est peut-être Laurentides est plus fameux, plus réputé, plus connu.
Et le Canada, c'est tout de même l'Amérique. Quand on y est, on sent quand même tous ces signes, on sent ces mêmes bruits, on sent cette même fureur. Montréal, évidemment, c'est beaucoup moins aigu que Los Angeles, ça on peut l'imaginer. Alors, est-ce que ce décryptage de Los Angeles ne vous était quand même pas perceptible par votre séjour canadien préalable?
Oui, je crois tout à fait. C'est peut-être pour ça que c'est pas vraiment un roman de voyage au sens où je décris quelque chose d'extrêmement lointain. Pour moi, c'est un peu comme si j'avais vécu toute ma vie en Suisse et que je parlais de la France voisine. Je parle des États-Unis comme d'un pays qui est avec qui j'avais directement affaire, bon, plutôt à l'est. Je partais quand j'étais gamin avec mes parents, on allait en Floride, à New York, un peu toute la côte est. C'est un pays que je connaissais déjà bien. Et c'est vrai qu'il y a les Canadiens et les Américains essayent des fois de nier cette parenté parce qu'elle est parfois désagréable, elle est parfois un peu lourde. Mais enfin, il y a quand même de toute façon des éléments en commun entre ces deux grands pays sur un même continent. Et je pense que ça, oui, je me sens de toute façon aussi américain d'une certaine manière. Quand j'ai pas l'impression que je décris un pays complètement étranger où avec une espèce d'œil d'ethnologue où je suis en train de m'enquérir des mœurs et des coutumes. Alors c'est vrai qu'il y a des choses déstabilisantes de toute façon, parce qu'en effet, ce côté doré de Los Angeles, c'est que je l'ai pas connu à Montréal, je l'ai pas connu de manière différente, ou je l'ai pas connu même à New York, c'est un peu différent. Los Angeles, il y a vraiment quelque chose de très particulier, c'est la ville du cinéma, alors on le pousse jusque dans les chaumières. Et mais donc non, j'ai pas. Je me sens de toute façon comme écrivant un livre sur un pays voisin, sur un pays que je connais bien.
La quatrième de couverture annonce, je cite, une vision neuve et décomplexée de l'Amérique d'aujourd'hui. Vous sentez vraiment poser un regard neuf sur l'Amérique d'aujourd'hui?
Je crois, oui. Je crois dans la façon dont elle est traitée, dans la façon... je pense... Alors, peut-être que ça ressort pas au tout début à Los Angeles. Je crois que ça ressort de manière un peu plus patente après, parce que je crois que je suis le seul à avoir écrit sur Trona. Bon, je peux comprendre mes prédécesseurs. Ça, je pense. Et puis le moment aussi auquel j'écris, je pense que j'avais écrit il y a 40 ans, ça aurait été très différent. Entre-temps, il y a eu les guerres, il y a eu l'Irak, il y a eu toute cette implication politique des États-Unis. Alors c'est vrai que c'est très étrange de revenir dans un pays comme ça maintenant. C'est fascinant d'ailleurs, il y a quelque chose de très fascinant, de façon perverse d'ailleurs. Il y a une espèce de fascination perverse, peut-être... Celle qu'a pu ressentir, par exemple, comment s'appelle-t-il ce grand avocat, Jacques Vergès, je crois, quand il défendait Klaus Barbie, c'est peut-être comme ça. Je pense que cette espèce de parenté, en se dire, bah, tiens, j'approche quelque chose qui est fondamentalement mauvais, qui est réputé mauvais, et puis en même temps, je sens que c'est extrêmement fascinant, que c'est vertigineux, que c'est... C'est passionnant, je crois, passionnant et exaltant.
Encore que vous précisez bien que la passion n'est pas le plaisir, j'ai lu ça dans le récit. Quand un mouron, juste avant qu'on ne se plonge dans votre prose, dans votre décalage horaire, tout de même, une pointe adressée à la cousine, à Clara, qui m'a beaucoup frappé parce que c'est un avertissement aussi au lecteur, Christine, on pourrait le lire ainsi, parce qu'en fait, vous accusez votre cousine, votre excellente cousine, vous l'accusez de... Elle croyait étendre son esprit, je vous cite, elle croyait étendre son esprit en lisant toutes sortes de livres, selon ses mots, alors qu'elle ne faisait qu'étayer sa bêtise. Donc il y a des livres qu'il faut lire et ceux qu'il ne faut pas lire.
Non, il y a, une manière de lire tous les livres, je crois que c'est le plus important. Parce que moi, dans le cadre de l'université, je suis maintenant inscrit à Lausanne, je vois toutes sortes des montagnes d'éruditions qui m'entourent. Et puis j'ai l'impression que ce sont quand même des abrutis finis. Et je pense que je ne me trompe pas. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement...
Vous voulez qu'on aille des ennuis avec l'académie.
La cousine, elle n'écoute pas.
Oh, c'est moi qui les aurai.
Ok, d'accord, très bien. Donc, caricature du mauvais lecteur, en fait, ce que vous pointez ici, c'est votre déception, récit complètement déceptif d'entrée de jeu, avec quand même le symbole très appuyé, le traitement dans le texte, avant qu'on l'entende. Juste ça, quand un mouron, le traitement, c'est travailler sur le symbole, c'est travailler sur le cliché hollywoodien américain.
Oui, je crois, oui. Et puis cet avertissement au lecteur ne s'adresse d'ailleurs pas, c'est pas seulement une raillerie que je porte contre ma cousine, c'est aussi un avertissement à moi-même. Cette phrase est venue après je parle d'ombre qu'on projette sur la page et j'étais en train de lire un livre, je sais plus ce que c'était, et je me suis dit mais là je suis en train de pas aimer ce livre parce que je suis plein de préjugés, parce que je suis en train de me dire que je sais pas, j'étais en train de voilà que celui qui l'écrivait était un sale type, que celui qui l'avait fait ci, qu'il avait fait ça, que voilà. Et finalement, je me suis dit, mais tiens, en plus, j'avais la lampe comme ça derrière moi, je me suis dit, mais j'ai mon ombre sur le livre, je suis en train de le gâcher ce bouquin, alors qu'il a autre chose à m'apporter que seulement mes petits préjugés à moi. Il s'agit pas seulement de... Parce qu'on peut aussi lire pour étoffer son discours, pour apprendre des jolies formules, grossir une enveloppe vide, comme ça, qu'on essaye de faire passer pour une pensée originale. Et c'est pas mon intention, je me suis rendu compte que c'est précisément ce que moi j'étais en train de faire et que j'avais pas du tout envie de faire ça.
Il est temps de découvrir votre prose, Quentin Mouron, et cela grâce à une lecture en direct du comédien Frédéric Lugon.
On ne sait pas grand-chose de la ville si on ne s'imprègne pas de Beverly Hills et de Rodeo Drive. J'y suis allé quelques fois pour des cocktails. Le grand chic des bourgeois, à rire, avec Clara ou seul quand j'étais invité. Bien sûr que les Angelins vivent au fond des banlieues, les ruelles sombres, accidentées, et qu'ils en crèvent jusqu'à Riverside, plus loin, longtemps après Los Angeles. Et Watts, le feu, l'alcool, les fumées de la révolte, noir au ciel en colonne d'insurgés, les flics, on s'en rappelle encore, et la voix. Luther King, je ranime, au piano, trompette, alto, Mingus. Évidemment que les Rolls-Royce ne sont pas pour tout le monde. Il faut le type, pas la couleur, la race. Je veux parler du type, celui qui fait que certains peuvent et d'autres non. Rodeo Drive, c'est la rue où mènent les rêves de tous les anges de la périphérie. Les déchus, les charbonneux, ceux qu'on s'évente quand on les croise. C'est à Rodeo Drive qu'ils s'imaginent dans leur passion, vers où ils tendent. Rodeo Drive, les devantures dorées, les enseignes, les parcs-mètres que l'on paye avec sa Visa Gold, la pourpre, voyez, rubis, les feux, jusqu'au fond de Riverside, dans la nuit, le brouillard, les frissons. On rêve de briller là, dans une décapotable de luxe, le cuir rouge, Bugatti, devant le grand hôtel, les confiseries, les millefeuilles, les douceurs, la feuille d'or. On se projette sur les pelouses, derrière une grille, un portail, des esclaves. Donner des ordres, être ce qui brille, les mille éclats du fond de soi, les variations, l'être. Je sais qu'on désespère le soir à Inglewood en rêvant à tout ça. Je sais comme il vient vite des passions d'assassins, les couteaux, un flingue, la famille entassée et le bruit des sirènes, travailler au noir pour $5 ou $6, et Rodeo s'allonge, gonflé d'étoiles, qui vomit ses diamants, Rodeo là-bas derrière, au bout d'un rêve, après le dernier bloc, les archiducs dans leur Mercedes noire, le cuir rouge, j'ai dit, les jantes. Si on sait comme ça blesse profondément le cœur, l'éclat d'une jante. Et la Mercury grise, la rouille dans le garage qui attend d'être repeinte. Beverly Hills, Rodeo Drive, c'est l'étoile qui guide les marches et celle qui les égare. Les prisons, ceux qui sont emmurés là d'avoir trop espéré. Ceux à qui on avait montré des photos, qui avaient vu des films, qui s'étaient personnellement bougés pour voir, qui ont roulé une fois sur Rodeo avec leur Mercury, qu'on a pointé du doigt, les rires, la jolie blonde qui glousse ses fourrures, un dernier clic-clac, un ray, bang, le ciel qui tourne, le fer qui fume, les cris, les sirènes, le soleil qui vous tord. Los Angeles, c'est la cité des anges, c'est entendu, mais des anges poussiéreux, noirs à l'os, et qui tombent à grosses grêles sur le dur des trottoirs. Quant au nord, les prisonniers travaillent, les fins de peine, après 8 ans, dans la forêt. Mon cousin flic m'a dit, comme c'est fréquent, qu'ils ne veulent plus partir, qu'ils se montrent intraitables, rester dans les forêts, la prison, leurs gardiens. C'est qu'ils savent ce que c'est de vivre à L.A. Ils préfèrent la prison. Ils creusent des tranchées contre les incendies. On leur donne le sens qu'il manque, quelque chose pour quelque chose. Tandis qu'à Inglewood, à Riverside, ailleurs, ils tâtonnent au brouillard, les trafics, sans savoir la corde au cou.
You call from Little Rock, California?
Yeah, long distance.
My. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town?
All we got is you.
That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolfman Jack Show.
Hugs and kisses and your money to hell. You know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. Your heart, so if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me, and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day.
Smog de Charles Mingus et quelques guitares issues de la bande originale d'American Graffiti. Vous êtes entre les lignes sur Espace 2 avec le jeune auteur Quentin Mouron qui signe son premier livre Au point d'effusion des égouts, publié aux éditions Olivier Moratel. Un passage que Christian Choquet a très bien choisi et que Frédéric Lugon a très bien lu. Vous voyez, je distribue des fleurs aujourd'hui, je suis très heureuse. D'une part parce que il démontre Quentin Mouron votre talent de la destruction de l'American Way of Life, le style de vie américain, et aussi parce qu'on sent bien ce rythme qui palpite sous vos phrases, la nervosité de votre style, serré, scandé. C'est ce que vous recherchez en écriture, une sorte de coup de scalpel comme ça, net, tranchant, efficace.
Je recherche quelque chose d'efficace, je recherche une phrase qui est tendue, Mais après, je me dis pas, là tu vas mettre tant de points à cette page-là pour créer tel effet. Après, ça vient assez naturellement, suivant la circonstance. Là, je parle de quelque chose d'assez violent. Alors évidemment, l'explosion a tendance à se faire davantage que quand il y a des moments plus tendres avec cette fille, avec Laura, là où d'un coup les phrases s'allongent comme par magie, elles se font beaucoup plus mélodieuses. On est dans quelque chose de moins, et puis tout d'un coup, mais à nouveau un coup de poing, et puis ça reprend. Je crois que c'est vraiment une question de circonstances. J'aime pas tellement ce qu'on se dit, voilà, on a son style, on a un style et puis un truc, et puis après on est en train d'essayer de toujours développer ce style là. Je crois que c'est la matière qui c'est le fond qui dicte à la forme, en tout cas les deux forment quelque chose de un enchevêtrement. Je crois pas qu'il y a vraiment
qui colle parfaitement. En l'occurrence, vous parlez de voyage comme de fièvre et de vertige, et c'est finalement cet effet aussi là
je crois qu'on y arrive comme ça. Je crois qu'on y arrive assez bien. Mais c'est vrai que par contre, dans certaines autres choses que j'écris, qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus, la phrase est tout autre, et c'est pas moi qui le veux, ça se fait naturellement.
Alors j'aimerais interroger ce naturel en écriture, Quentin Mouron, tout de même. Moi j'ai surtout lu Au point d'effusion des égouts comme un accrochage, vous avez des simèzes, on entre dans une galerie de tableaux et de portraits par conséquent, dont vous seriez à la fois le peintre dégagé du sujet, pas trop impliqué, en mettant des couleurs parfois très criardes, parfois plus pastelles, on va entrer dans le désert dans un moment, et par conséquent vous avez quand même le regard. C'est déterminant, cette notion du regard dans le roman. Et d'ailleurs, le mot très court que Frédéric Lugon vient de lire, le passage qu'il vient de nous lire, nous montre bien ce travail de peintre, au scalpel, disait Christine. Mais j'y vois aussi le travail du voyeur, celui qui ne s'implique pas dans ce qu'il est en train de découvrir. Il nous laisse un peu seuls, nous, lecteurs, avec le choc de son regard. Donc il y a à la fois le regard et il y a à la fois la distance du voyeur. Comment vous percevez ça?
Je crois que je suis un voyeur, de toute façon, c'est exact. Tant dans ma passion de lire des journaux intimes, j'ai lu le journal de Gide, par exemple, alors que j'ai détesté ses bouquins. J'adore de toute façon le côté intrusion, le côté télé-réalité aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Je crois qu'en effet, ça ressort. Je pense que ça ressort particulièrement dans certains... Peut-être au début, justement, où je suis comme ça, je me rends à des soirées, mais je suis jamais dans mon élément, je suis jamais directement impliqué. C'est des soirées qui ne me concernent a priori pas, où je rôde, je coule un œil, je bornois, et puis après je repars. Et on est, je crois, dans cette notion de voyeur. Je crois que il y a en effet une bonne part de voyeurisme. C'est aussi comme ça que je règle ma vie quotidienne.
Très bien, alors c'est un aveu là, un véritable scoop. Nous avons donc de la part de Quentin Mouron un aveu qui va évidemment aiguiser son écriture et son style. On fait de la très bonne littérature par voyeurisme, Quentin Mouron, si on voulait un petit peu plaisanter. Cela dit, je reviens au regard, parce que du coup, ce regard très appuyé vous fait exploser la syntaxe et du coup aiguise votre plume. Et j'aimerais savoir comment on passe d'un regard si aiguisé au mot qui le soutient.
C'est une colle là que vous me posez.
Non, on essaie d'avoir le traitement du livre.
Non,
pourquoi il est efficace? J'aime pas parler de livre efficace. Pourquoi ça marche?
Mais je crois qu'en effet, tout commence dans le regard. Je pense que le livre déjà naît dans le regard, et puis après la plume, c'est une façon de restituer une émotion, c'est une façon de rendre quelque chose. Alors j'aurais peut-être fait différemment. Je crois pas que la plume soit un médium privilégié. J'aurais pu le faire si j'avais eu un tant soit peu de sens musical. J'aurais pu le faire différemment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs toute cette attention portée à la rythmique. Ça vient peut-être aussi d'un complexe de ma part d'avoir jamais réussi à sortir un son cohérent d'un instrument. Mais je pense que ça commence de toute façon dans le regard, et aussi dans l'environnement, parce que je suis pas certain que j'aurais écrit la même chose si je m'étais trouvé n'importe où. Donc ça commence avec l'objet, ça se poursuit avec le regard sur l'objet, et puis après la plume, c'est la dernière étape, c'est le moment où on se dit j'ai envie d'en faire quelque chose, ou j'ai envie d'en parler, ou j'ai envie de je crois que ça doit rester, je crois qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire. Et puis même après, bah, dans l'écriture, c'est la chose se transforme parce que le Las Vegas que je décris, c'est mon Las Vegas, ce n'est pas le Las Vegas de tout le monde. Et puis on peut aussi trouver que c'est une ville très sympathique. Moi, je suis très ouvert à ce genre de contre-remarques. Et je crois que c'est à ce moment-là, le dernier moment qui est l'écriture, c'est vraiment là où il y a de toute façon des espèces de déformations de la réalité. Finalement, on puise dans la réalité et puis finalement, on la fait exploser, on la déforme, on la gonfle, on la restructure, on en prend un bout, on colle à l'autre. Et puis, mais je crois pas que ça relève du truc. Ça relève pas du tout de la petite chose. On se dit là, je vais, voilà, la petite technique, on se dit je vais faire telle ou telle chose. C'est vraiment, ça vient comme ça. C'est aussi une question, c'est très lié au ressenti, c'est très lié à cela.
Avec la musicalité de la langue, vous semblez vous en défendre quant à Mouron, mais enfin, à la page 58, tout au début, j'en lis une, elle sera tout à fait éclairante. Laura a bien senti que j'avais pris un coup, que sa marraine, c'était du vent, que ça passerait entre deux cartoons, mais qu'il fallait, moi, me traiter un peu doucement. Voilà, c'est parfait, ça. Hein, extra. Voilà, cartoons, vent, les mots sont là, le rythme, c'est allitératif, c'est quasiment poétique. L'image arrive, Laura s'en va, l'image arrive. Mais enfin, à part ça, tout va très bien. Hein.
Vous parlez très bien des images, Christian Tchoka, et vous faisiez allusion à cet aspect cinématographique aussi que l'on retrouve dans ce livre, au point des fusions des égouts. Très visuel, ce récit, musical également, vous faites bien de le dire. Hollywood Boulevard et Elvis Presley, Catwoman, qui d'autre, Beverly Hills, Brad Pitt. Mais c'est pas cette Amérique-là que vous recherchez, vous, que recherche le narrateur. C'est pas l'Amérique des touristes.
Non, je crois que sur les touristes, il glisse un peu par hasard. Et puis parce qu'il est obligé. Et puis que c'est un grand pays touristique aussi. Alors on glisse de toute façon à un moment ou à un autre sur un autocar. Mais je crois que non, en effet, le narrateur ou moi, d'une certaine manière, cherchons autre chose. Oui.
Et autre chose, c'est peut-être dans le désert, à Trona.
Oui, alors à Trona, où on va en parler, on va plonger là-dedans. Mais enfin, juste avant, hein, qu'on reste un peu sur cet élan de la fabrication du texte, Christine. Quentin Mouron, vous pratiquez la litote, donc vous en dites beaucoup avec moins. C'est ça aussi l'effet du mot et de la syntaxe qui se réduit. Et c'est très pratique, la litote, quand on entre dans un désert, précisément. C'est ce que vous vouliez nous faire entendre.
Oui, peut-être l'occasion d'écouter une autre lecture de Frédéric Lugon. Ce passage qui nous emmène précisément, Trona, c'est où Trona en quelques mots, Quentin Mouron ?
C'est au sud de Death Valley, c'est en Californie toujours, une Californie qui n'est pas forcément celle qu'on a envie de montrer. C'est à proximité d'une base militaire et c'est pas très loin de Bakersfield, de Barstow, c'est vers un petit bled qui s'appelle... Bah, je crois que c'est pas très loin d'où était tournée la planète des singes, mais je sais plus où est le nom du
bled. Au milieu
du
de rien,
mais...
si on
oui,
se résume.
Oui, exactement.
La planète des singes, ça nous ira très bien.
Frédéric Lugon.
J'ai rencontré beaucoup de fous dans le désert. À Trona, on battait des records en termes de concentration, deux ou trois dans chaque baraque, au moins. J'en ai rencontré de très drôles, des plus tristes. Un gros lard d'une trentaine d'années, vraiment énorme, les yeux bovins, qui buvait des bières dans sa chambre, par défi. Et il n'était pas tout seul, c'était un réseau. Il postait sur YouTube. Il en avait commis au moins 300. Il s'asseyait dans sa chambre, enclenchait sa webcam, annonçait le programme. Boire une cobra en 10 minutes, 3 Budweiser, 2 Wildcats. Il variait d'un jour à l'autre. Il faisait le bout en train, débouchait, une lampée, hurlait des blagues, riait grassement. On l'entendait gueuler de joie depuis la rue. Un renvoi, une pensée, de la philosophie. À la fin des 10 minutes, il se vomissait sur le ventre, d'un jet, brunâtre, du menton jusqu'aux couilles, un trait. Ça l'empêchait pas d'en reprendre, c'était normal, voulu. Il le disait, dessin d'artiste, il avait trop dîné. Quand je suis rentré, j'ai suivi son parcours. J'ai souscrit plusieurs mois, d'une mousse à l'autre au fil des jours. Il poussait loin, 2 grandes cobras, pas 10 minutes. Je l'ai vu faire, une autre au Jack Daniels. Il parlait de dévorer la chatte d'une jeune actrice, vraiment très jeune, du rêve. Il a redégueulé. La dernière vidéo que j'ai regardée, il parlait d'hospitalisation. Il riait beaucoup moins. Il a quand même sifflé une bière ou deux, l'honneur. Mais le cœur n'y était plus. Il a disparu depuis. C'était quelque chose. passé 1000 subscriptions. On se le disputait d'un bout à l'autre de la planète. Un Anglais lui intimait de revenir. Un Colombien se lamentait. Plusieurs Chinois. On lui faisait une fête. Qu'on lui glosait le moindre hoquet. On discutait son cas, où il était, les exégètes, qu'il préparait quelque chose, une surprise, un record. On le croyait sûr de son coup. On était loin de se douter. Il vivait chez sa mère. Elle lui avait pas rêvé grand-chose comme avenir, mais quand même, elle l'aurait au moins vu à l'usine, contre-maître. Elle se consolait comme elle pouvait. Son fils en star. Passé 1000 fans. On peut en rire. C'est con, ce qu'on fait pour vivre. L'entêtement ridicule pour se hisser à l'existence. À Trona, c'est pas tant, il n'y a pas d'issue, la partie est foutue. On s'y tue de naissance. Le gros s'était mis en tête de briller par le gosier. Une idée. Entre lui, sa bière, et moi, ma plume, il est permis de réfléchir, se marrer, tirer quand même un parallèle. Oh, il faut pas croire qu'on s'échappe à soi parce qu'on reluque les autres. Surtout pas. Plus je vous mate la gueule et plus je m'y vois sourdre. J'aurais voulu être à Los Angeles. J'aurais voulu voir les gens avec des masques encostumés, prêts au spectacle. J'aurais voulu les voir cercler en anges sur les planches de Beverly, se dresser aux étoiles. J'aurais voulu de la magie. L'illusion me manquait. À Trona, tout se donne franc dans la poussière. La place aux choses. J'ai discuté deux mots avec le gros buveur. Il ne croyait à rien, ni aux hommes, ni aux anges. Le ciel était tombé sur lui. Il rampait au soleil dans les décombres. Je m'imaginais, moi aussi, privé de tout. La réflexion. Je me voyais sans carnaval, sans comédien. Si j'allais, moi aussi, me cesser de mentir. Là, j'avais à Trona un monde qui ne sait plus mentir. C'était pas à envier. Le gros Jim était sincère. Il ne m'a pas beaucoup donné de goût pour la sincérité. Mon penchant est pour l'esbrouf, le théâtre. Je voulais y rester, que les planches tiennent encore, coûte que coûte. Je visais déjà Vegas. Je voulais m'abandonner au projecteur, me faire bercer par les lumières. Oh là, même, je mens un peu, je devinais quand même. Au creux, je savais bien, je n'étais plus très dupe. Je n'avais pas attendu Trona qui se tenait autour de moi en prolongement de mes angoisses. Le gros Jim, nous étions frères. Il était moins poète. C'était les mêmes efforts. C'était le même désert.
Le désert, la route 66, le Grand Canyon, une décapotable qui s'élance dans le vide. C'est la bande originale du film Thelma et Louise. Vous écoutez Entre les lignes en compagnie de Quentin Mouron. Retenez bien ce nom, Quentin Mouron, il n'a que 22 ans. Et son premier roman, Au point des fusions des égouts, publié aux éditions Olivier Moratel, annonce l'arrivée d'un nouveau talent dans la cour littéraire romande. Alors, pendant que Frédéric Lugon lisait cet extrait de texte, vous étiez très attentif, Quentin Mouron, et pour tout vous dire à nos auditeurs, pendant la musique, vous échangiez l'un et l'autre sur l'efficacité de la lecture et puis à quel point une lecture peut transformer un texte aussi.
Ah oui, complètement. Oui, je me demandais des fois qui avait écrit ce truc. alors tout à fait. Il y a vraiment.
Je peux vous le dire. Hein, je peux vous le dire.
Si
j'ai son nom ici.
J'ai pas mon exemplaire, mais. Mais il y a le. Oui, alors ça transforme complètement. En plus, c'est vraiment fait avec. Oui, j'ai l'impression que. Donc Frédéric Lugon est encore plus dans le texte que moi, donc c'est vraiment le, il y a quelque chose de très très, oui, très 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 émouvant d'ailleurs à entendre ça, surtout que c'est émouvant et puis en même temps c'est très flatteur, je dois dire.
Dans cet extrait que vient nous lire Frédéric Lugon, vous nous faites découvrir Trona, au cœur du désert, entre deux bases militaires. On y rencontre beaucoup de fous, comme vous le dites. Le narrateur semble fasciné par le revers de la médaille, non ? Une fascination pour le désespoir aussi. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse aussi, vous, aller au-delà du social ?
Oui, je crois qu'il y a ça. Il y a déjà peindre, cette misère, ce désespoir, comme ça, le denier franc, justement. Et puis, il y a aussi ce côté assez drôle, parce que, bien sûr, c'est pas un roman à thèse, loin de là. Alors, je raisonnais comme ça en écrivant la partie de Los Angeles, qui est antérieure à la partie de Trona, et où je raillais copieusement tous ces déguisements, tous ces costumes qu'on se met, toutes ces atteintes à la sincérité, tout ce théâtre qu'on se fait finalement sur le boulevard, les boulevards adjacents à celui d'Hollywood. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais tiens, en écrivant, je me dis, mais à Trona, c'est marrant parce qu'il manque tout ça. Et puis il manque, finalement, c'était pas si mal quand il y avait un petit quelque chose, quand il y avait un peu de magie, quand il y avait un petit peu de. Quand on n'était pas dans cette sincérité, alors qu'on célèbre, des fois, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est devenu presque un espèce de mot d'ordre, soyons sincères, soyons naturels, soyons. Soyons nous, et puis ce qui n'est pas faux d'ailleurs, ce qui est sans doute un mot d'ordre intéressant, mais où tout d'un coup j'avais l'impression qu'on avait été trop loin, qu'on avait un peu trop cassé la scène, qu'on avait un peu trop fait tomber le rideau, et puis que c'est le cas de Trona, je crois que les gens sont très sincères, mais que c'est pas forcément en tout cas ce qui m'a semblé le plus avantageux, ou en tout cas le plus enviable.
Votre narrateur arrive donc à Trona, on vient d'avoir cette plongée dans le désert, alors... Vous ne le faites pas exprès, quand en mourant, on va vous laisser donc au bénéfice du doute, mais enfin, en plantant le décor dans un désert où rien ne se passe plus, c'est évidemment comme la page blanche, un désert, on peut tout réécrire, et puis du coup, c'est votre vanité. Vanité, cette magnifique figure haut des peintres ou des poètes du XVIIe, c'est-à-dire c'est la tête de mort, et c'est où réfléchir à la fin de l'humanité, à la fin de la vie. D'ailleurs, vous le dites très bien, j'étais arrivé à l'homme au point exact où il se quitte. Ça, c'est une phrase de moraliste, que vous le vouliez ou non.
Oui, c'est vrai que là, c'est une. Oui, là, on est déjà du côté des moralistes français, c'est vrai. Je veux bien l'admettre. Non, je crois, oui, en effet, le désert, ou peut-être encore plus ces petits bleds de désert, parce que le désert, c'est très riche finalement, c'est très vivant, un beau désert. C'est extrêmement. Ça fourmille de vie, c'est très beau, c'est très. Tant qu'on a de l'eau avec soi, c'est très. Je crois que ça porte plutôt ou à la douceur, tandis que Trona, c'est un autre désert encore. C'est le désert qui a été habité plus ou moins par l'homme, où l'homme est venu y survivre, est venu essayer d'y proposer quelque chose qu'il nomme sa vie, et avec quoi on n'est pas obligé d'être d'accord d'ailleurs. Et puis c'est très sinistre, parce qu'il n'y a pas seulement le sable, il n'y a pas seulement les grands espaces, il n'y a pas seulement le vide, mais il y a aussi les clôtures, il y a aussi les ruines, il y a aussi les traces de l'homme, il y a tout ça. Et ça, je crois que ça fait assez facilement réfléchir sur ce genre de choses. Je crois qu'en effet, à Trona, on est arrivé à ce point-là. On arrive à quelque chose de... Alors, je ne fais pas une chronique de Trona. C'est aussi... je ne suis pas en train de... Peut-être que celui qui ira à Trona, encore une fois, sera tout à fait séduit par l'endroit, trouvera la chose extrêmement charmante. Je ne l'exclus pas. C'est la vision que j'ai eue de cet endroit, mais que j'ai aussi eue d'autres endroits aux États-Unis et ici, en Suisse aussi, en Europe... un peu partout, donc c'est quelque chose de qui s'élève de la simple, on n'est plus seulement dans le portrait ou dans le croquis d'un endroit, mais je crois qu'on est vraiment dans une réflexion beaucoup plus générale sur l'homme en général, son désir d'être pompeux ou moraliste.
Bon, voilà, vous cassez mon effet, tant pis pour la morale. N'empêche, il y a évidemment une morale de la fin. Alors, je n'aurai pas le temps d'appuyer lourdement sur les très belles pages consacrées à Las Vegas, où Norbert, d'origine bavaroise, Bert, hein, j'imagine son petit nom américain, essaye de vous entraîner dans une débauche auquel, évidemment, vous résistez. En tout cas, votre narrateur résiste à la débauche de Las Vegas. Dommage, mais enfin bon, cela
dit... Il résiste pas tant que ça.
Non, oui, d'une certaine façon. Et puis, vous arrivez en Suisse. Alors, je parlais du débarquement à Los Angeles au début, débarquement à la fin, de jet lag, le début et la fin. Et là, vous êtes très mauvais coucheur quant à mourant, hein, quand vous revenez dans votre famille. Alors là, c'est vraiment la flinguée généralisée. Hein. Donc, le retour en Suisse se passe fort mal. Et toute cette pitié, puisque vous en parliez tout à l'heure, dont vous entoure votre famille, eh bien, vous la catapultez carrément.
Oui, là, je crois que je peux répondre en parlant en nous, parce que tous ceux qui rentrent de voyage ou qui sont rentrés de voyage, on vit la même chose, je crois. En tout cas, ce que j'ai ressenti dans les retours que j'ai eus par rapport à cette partie-là, je crois que c'est quelque chose d'assez général. C'est peut-être un des passages qui a le plus touché, parce que tout le monde n'est pas forcément allé sur la côte ouest, mais tout le monde est revenu en Suisse depuis tel ou tel endroit. Et je crois que ce sont des pages assez, assez fortes et puis aussi assez vastes. Elles peuvent englober toutes sortes d'expériences différentes. Oui, c'est un passage très dur parce que on retrouve, moi, ça me fait plaisir aussi quand j'étais rentré, là, d'avoir retrouvé tout le monde. Voilà, c'est très sympa. C'est une espèce de bain de foule. On serre des mains, on raconte des anecdotes. C'est très sympathique. Et puis, eh bien après, le lendemain, on a la gueule de bois et on est tout seul dans notre chambre. Et puis là, ça commence à être moins drôle parce qu'on se sent, on se demande ce qu'on est venu foutre là. Il y avait tout qui était à portée de main. Alors même si c'était très noir, même si j'en ai dit beaucoup de mal, ma cousine Clara me semblait presque désirable, c'est dire.
Vous parlez de gueule de bois, c'est un peu des souliers rentrés, non, de voyage.
Oui, c'est joliment dit, c'est très joliment dit. Là, je parle d'une vraie gueule de bois parce que quand on rentre, on se fout une murgée.
Également, ouais.
Oui, symboliquement, vous faites bien de le relever. Oui, c'est bien sûr, symboliquement aussi. Il y a ce côté, bien sûr, redescente qui est dans toute, je crois que dans toute extase, dans toute, dans toute extase et de toute façon une conséquence immanquable.
On ne vous demandera pas donc de souffler dans le ballon en sortant de cette émission. Vous avez des saoulés, c'est vrai, quand un mouron. Mais enfin, vous partez déjà sur d'autres aventures. L'écriture, ça continue. Je pense aussi trépignante que cette prose-là que vous nous offrez aux éditions Olivier Moratel. Alors, qu'est-ce qui vous entraîne maintenant en quelques mots, puisque vous êtes rapide?
Alors là, c'est encore une ébauche. Peut-être que ça ne verra jamais le jour. Là, je suis en train de, j'ai resitué l'action. Donc ça, sur quoi je travaille, un vrai roman, c'est un peu dépréciateur, mais enfin, un roman un roman qui se passera surtout entre trois personnages et que j'ai décidé de situer au Québec, dans le petit village de Notre-Dame-de-la-Merci où j'ai grandi. Alors ça, on parlera beaucoup moins du village que là j'ai parlé de Californie parce que bon voilà, c'est juste un décor où se passera une intrigue comme ça et j'en dis encore pas plus parce que j'en sais encore rien.
Merci Quentin Mouron d'avoir accepté l'invitation d'Entre les Lignes. On a aimé vous lire, on a aimé vous rencontrer. Je rappelle une dernière fois le titre de votre roman, le premier, Au point d'effusion des égouts. Il est publié aux éditions Olivier Moratel. Belle journée.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Christian Tchoka, Christine Gonzalez pour cet Entre les Lignes. Merci à Christophe Esseva à la réalisation, à Frédéric Lugon pour ses lectures, à Janine Corbeau à l'assistance de production. Je rappelle qu'Entre les Lignes a sa page internet, entre les lignes en un mot.rsr.ch. Vous y trouverez des liens et des informations sur tous les auteurs que nous invitons, ainsi que les détails de la programmation musicale. Demain, rendez-vous à 11h. Jean-Marie Félix et Annick Chuin recevront Carole Martinez pour son magnifique roman Du domaine des murmures, publié aux éditions Gallimard, un roman qui a par ailleurs remporté le prix Goncourt des lycéens. Après les informations de midi, retrouvez toute l'équipe de Dardard, le magazine culturel d'Espace 2. Espace 2, il est midi.